Voilà, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver après quelques 3 ou 4 mois, je crois, puisque la dernière fois que j'étais ici, c'était le 20 novembre. Et si vous vous souvenez bien, ce même 20 novembre, j'avais débuté mon propos en vous posant la question suivante. Qu'est-ce que réclame la grâce de Dieu? Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais moi je m'en souviens puisque c'est moi qui vous l'aviez posé. Et qu'est-ce que réclame la grâce de Dieu? Et finalement, nous avions répondu à la lumière du texte qui précède celui que nous venons de lire, à la lumière d'1 Pierre, chapitre 1, versets 13 à 21, nous avions répondu « La grâce de Dieu réclame de nous à la fois la sainteté et la révérence, le respect à l'égard de Dieu. » Et je crois que notre texte de ce soir nous apporte, de cet après-midi, nous apporte deux éléments supplémentaires. Qu'est-ce que réclame la grâce de Dieu? Et Pierre poursuit en donnant deux éléments. Mais avant de voir tout cela, j'aimerais nous inviter à prier encore une fois pour demander au Seigneur d'ouvrir nos cœurs et de nous accompagner. Notre Dieu, notre Père, c'est devant toi que nous courbons le front, c'est toi. Ce matin, cet après-midi plutôt, qui nous adresse cette noble convocation que de venir te célébrer, venir t'écouter, toi qui te donnes en présence par ta parole, toi qui te donnes en présence par l'écoute attentive de nos prières et de nos chants, nous voulons te demander de disposer nos cœurs à recevoir ce que tu as à nous dire, nous qui sommes ton peuple. Accorde-nous le secours de ton esprit et garde-nous humbles et docile devant toi. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Un auteur écrivait « Je suis incapable de supporter une personne pendant 2 jours dans la même pièce. » Incapable. « En l'espace d'une journée, je peux finir par détester ce que les gens ont de meilleur. Les uns parce qu'ils prennent trop de temps lors du dîner, les autres parce qu'ils attrapent froid et se mouchent sans cesse. » Finalement, cet auteur disait, « Plus je déteste les gens individuellement, alors plus je les aime passionnellement, plus j'aime passionnément l'humanité en général. » L'idée est simple. Il est facile d'aimer les gens de manière générale. Facile de dire « J'aime cette église ». J'aime cette association, j'aime ce groupe. Or, il est beaucoup plus difficile d'aimer la personne assise à côté de vous cet après-midi. Qu'elle soit votre mari ou votre épouse. Hein. Lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous sommes abattus, déçus, contrariés, c'est difficile. C'est fatigant. C'est fatigant d'aimer au-delà d'un simple sourire, au-delà d'un simple « bonjour, comment est-ce que tu vas ?» Au-delà d'une poignée de main, au-delà d'un dimanche après-midi, c'est difficile et fatigant. C'est fatigant. Et pourtant, malgré ce constat, qu'est-ce que réclame la grâce de Dieu? Verset 22. « Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Aimez-vous, c'est-à-dire aimez-vous avec persévérance, avec constance, de manière dévouée, et cela en dépit de tout, quelle que soit votre humeur, votre état de fatigue, quelle que soit la pression extérieure. Dieu nous dit, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Et pourquoi? Pourquoi devrions-nous nous donner la peine de nous aimer ainsi? Pierre nous livre 2 raisons. 2 raisons dans notre texte. Il était 19h. Je ne sais pas si c'est l'heure à laquelle vous rentrez du boulot, mais il était 19h et vous vous êtes arrêté dans un magasin de bric-à-brac. Et vous tombez sur un petit bol fêlé. À peine fêlé, mais sali de terre. Mais en grattant un peu, vous remarquez qu'il s'agit d'une magnifique pièce de porcelaine. Vous l'achetez, vous l'emportez chez vous, vous le nettoyez et réparez la fissure. Puis vous le mettez ensuite à une place d'honneur. pour contenir 3 magnifiques œufs décoratifs. Or, le lendemain, le propriétaire initial du bol se présente au magasin et demande à le récupérer pour s'en servir de cendrier. Mais vous, comme il se doit, vous l'avez acheté, vous l'avez acquis, vous répondez que le bol n'est plus disponible. Non, 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 non. Non seulement je viens de l'acheter, mais en plus je l'ai nettoyé de l'intérieur, à l'extérieur. Qui plus est, vous lui avez donné un nouvel usage, une nouvelle fonction. Je crois que nous sommes un peu comme ce bol. Un peu comme ce bol. Dieu est entré dans le bric-à-brac de nos vies. Dans le bric-à-brac de nos vies. Et nous a rachetés, non pas par quelques pièces d'argent, mais nous a rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ à la croix pour nous consacrer à un nouvel usage. Fondamentalement celui de l'amour fraternel. Car je crois que c'est la finalité de notre salut selon ce que dit Pierre, verset 22. Écoutez avec moi. Par votre obéissance à la vérité, c'est-à-dire en reconnaissant l'Évangile comme vrai et en y soumettant votre vie, vous avez été sanctifié ou consacré en vue d'un amour fraternel sincère. Pierre fait de l'amour fraternel une finalité de notre salut. L'amour fraternel n'est pas présenté comme un sous-produit du salut qui nous a été offert par grâce, mais comme sa finalité. C'est une façon de dire pour Pierre que l'Église n'est pas le reproduit dérivé de notre salut, pas plus qu'elle n'est une aide opportune pour des chrétiens individuels. Le Christ nous a rachetés par sa mort à la croix, nous l'avons chanté, nous l'avons prié, mais il nous a rachetés afin de constituer une nouvelle famille dont l'usage premier est l'amour fraternel ardent et sincère. Et je me suis laissé questionner à la lumière de cette vérité fondamentale. Dans quel but rejoignez-vous l'Église de Jésus-Christ? Dans quel but rejoignez-vous une Église? Dans quel but avez-vous rejoint cette Église du Quai de la Pie? Souvent, on la rejoint pour être édifié, pour recevoir, pour bénéficier d'un peu de chaleur humaine et quand même un petit peu pour donner. Mais quand est-ce que nous avons rejoint une Église pour aimer? Pour apprendre à aimer ardemment, sincèrement. Peut-être que, et je ne sais pas, je ne connais pas tout le monde, il y a des visages qui ne me sont pas familiers, mais peut-être que vous visitez l'Église de la Pie depuis seulement quelques semaines. Allez, quelques mois, va-t-on dire. Et la question que Dieu nous pose ce matin, la question que Dieu vous pose ce matin est la suivante. Avez-vous pour objectif d'aimer sincèrement et ardemment ceux qui sont assis à votre gauche et à votre droite cet après-midi? Ceux pour qui Jésus-Christ a versé son sang. Qu'ils vous ressemblent ou non d'ailleurs, qu'ils soient différents ou non, souhaitez-vous apprendre à les aimer? J'oserais même poser la question suivante. Cet objectif fait-il partie du top 3 de vos objectifs de vie? Parce que si c'est la finalité de notre salut, il doit en faire partie. L'amour fraternel, sincère, constant, persévérant, dévoué, en dépit de tout, est-il encore dans le top 3 de nos buts dans la vie? Si quelqu'un parcourait notre agenda, sur la période d'un mois, plus d'un mois, pourrait-il en conclure?
Ah ouais.
Lui, elle, ils ont vraiment envie d'aimer leurs frères et sœurs dans la foi. Ils y investissent du temps et de l'énergie. Pourquoi nous donner la peine de nous aimer les uns les autres? Car c'est la finalité de ce que Jésus a fait de nous. Une famille appelée à s'aimer ardemment. Mais Pierre nous livre une seconde raison une seconde raison. Dans l'épître de Pierre, nous côtoyons deux thèmes qui reviennent régulièrement. Notre identité, ce que Dieu a fait de nous, ce que nous sommes en tant que peuple, et notre espérance, l'avenir que Dieu nous réserve en famille. Et le texte d'un Pierre que nous avons lu tout à l'heure, pas celui de la prédication d'aujourd'hui, mais celui que nous avons lu pendant le temps de louange, fait écho à cette espérance. Nous sommes exilés sur cette terre dans l'attente de notre vraie demeure, une terre renouvelée. Espérance et identité sont fondamentalement liées. Mais ici, Pierre ajoute un élément, l'amour. Et dans notre texte, l'amour, l'identité et l'espérance sont toutes les trois liées au verset 23. Versets 22 et 23, je lis. « Aimez-vous ardemment les uns les autres, car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence éternelle, immortelle, par la parole vivante et éternelle de Dieu. » Prenez ce rouleau de papier toilette. Prenez ce rouleau de papier toilette. Disons qu'il représente votre vie, toute votre vie. OK ? Désolé, madame. Disons qu'il représente toute votre vie. Toutefois, ce morceau-là, juste celui-là, représente votre vie avant la mort. Or, pendant ce temps-là, il y a une multitude de choses qui détermine votre identité, notre identité, une multitude de choses qui nous façonnent, nous modèlent, nous sculptent en tant qu'individus. Notre éducation, notre travail, nos richesses, et je dirais même nos opinions politiques, mais aussi notre appartenance au peuple de Dieu. Or, la plupart des choses qui nous façonnent, qui tendent à nous façonner et tendent à nous définir aujourd'hui, prendront fin ici, juste là. À notre mort. Cependant, notre appartenance au peuple de Dieu nous façonnera et nous définira ici, là, hop, jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il soit complètement déroulé. Il nous définira éternellement. Si nous sommes venus à Jésus par la foi, nous faisons partie de la famille de Dieu et cette réalité nous caractérise non pas pour 5 ou 10 ans, mais pour des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'années, et même plus encore. Par contre, nous ne serons pas éternellement mariés, désolé, éternellement professeurs, éternellement ingénieurs, éternellement businessman, éternellement retraités, éternellement malades, éternellement je ne sais quoi, mettez-y tout ce que vous voulez. Mais pour toujours, nous serons unis à Christ et à son peuple. Je ne sais pas si ça sonne comme une bonne nouvelle pour vous, mais... Pour toujours, nous devrons nous aimer ardemment et sincèrement les uns les autres. Pourquoi ? Regardez, versets 22 à 23 encore. « Car vous, dit Pierre, vous, c'est-à-dire individuellement, et en tant que peuple, vous êtes nés, une image pour parler de la conversion, la naissance, vous êtes nés à une vie nouvelle par une semence immortelle. En reliant l'impératif du verset 22, aimez-vous ardemment les uns les autres, à l'affirmation sur la semence immortelle qui nous a engendrés en tant que chrétiens, Pierre nous suggère de comprendre la chose suivante. Puisque cette semence qui est la parole de Dieu, vous a engendré, est immortel. De même en est-il de la famille de Dieu. De même en est-il du peuple que vous formez. Cette semence immortelle conduit à une vie en famille éternelle. Mais regardez encore ce qu'il dit de cette semence, verset 24. Tout homme est pareil à l'herbe et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette semence, cette parole, a un impact éternel. Si un joueur du un joueur de football signe au PSG, pour le PSG. Alors, pour la durée du contrat, c'est vrai, vous êtes plus basket, vous. J'aurais dit, prends pas les... Je sais pas. Mais bon, enfin, c'est pas grave. Si un joueur de football signe pour le PSG, ou alors un joueur de basket pour les Lakers, c'est bon, ça passe, c'est mieux ? Ok. Alors, pour la durée du contrat, il est lié par ces termes. Il doit s'entraîner, se rendre au match, aller à la salle de sport, mais lorsque le contrat prend fin, ces termes du contrat ne le définissent plus. Mais lorsque Pierre en vient à parler de l'Évangile, au verset 25, la parole par laquelle nous venons à l'existence, en tant que peuple de Dieu, en tant que croyant, il parle d'une parole éternelle. Une parole qui ne cessera jamais d'avoir un impact sur nous, sur ce que nous sommes. Nous sommes éternellement une famille. À ce titre, ce que cette parole dit de nous est plus important que notre travail. Plus important que notre travail, que tout s'y passe bien ou non d'ailleurs. Plus important qu'une promotion que nous pouvons obtenir ou non. Plus important que notre mariage même, ou notre célibat. Plus important que n'importe quelle réponse que je pourrais donner à la question « Qui suis-je ? » Jeune, vieux, célibataire, marié, en bonne santé, malade, retraité, ces réalités par lesquelles nous avons tendance à définir ce que nous sommes changent et changeront avec le temps. Elles s'arrêteront ici, ici et là. Elles ne nous caractériseront plus du tout. Mais Pierre cite Ésaïe 40 dans notre texte pour nous rappeler que, par contre, la parole du Seigneur, celle qui nous a engendré, l'Évangile lui-même, a des effets sur nous qui subsisteront éternellement. Et là, nous touchons du doigt un fait important. Les personnes qui sont assises à côté de toi cet après-midi, ou à quelques chaises d'écart, du fait que tu sois lié à elles par engendrement, du fait que tu fasses partie avec elle de la même famille de Dieu, ces personnes sont ce qu'il y a de plus significatif à ton sujet. Et tu es aussi ce qu'il y a de plus significatif à leur sujet. Puisque ce que vous êtes en tant que peuple vous définira éternellement. Les personnes qui sont assises à côté de vous cet après-midi, elles font partie de ce que vous êtes et de ce que vous serez pour toujours. Elles définissent une partie de vous-même en tant que membre du peuple de Dieu. Elles ne sont pas de simples compagnons du dimanche ou compagnons pour 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Elles sont avec vous une famille pour toujours. Et c'est précisément pourquoi s'aimer ardemment et sincèrement maintenant a du sens. Parce que nous nous aimerons sincèrement et ardemment pour toujours. Nous ne sommes pas nés à une vie nouvelle pour une petite espérance vivante et privée. Mon espérance, mon salut, mais pour une espérance absolument somptueuse où nous serons unis à des milliers et des milliers et des millions et des millions de chrétiens que nous ne connaissons pas, mais qui pourtant font tout autant partie de cette grande famille. Cela ne veut pas dire, j'en conviens, hein, cela ne veut pas dire que s'aimer les uns les autres est facile, moins fatigant. On le sait bien, mais cela veut dire que s'aimer ardemment les uns les autres, c'est la chose, l'objectif pour lequel il nous faut travailler sans relâche. La chose pour laquelle il faut accepter d'investir du temps, quitte à désengorger nos agendas. La chose pour laquelle il faut investir du temps, quitte à refuser peut-être une promotion qui nous prendra encore plus de temps. Car s'aimer ardemment, c'est la chose qui a l'aune de l'éternité, à la lumière de l'éternité. C'est la chose qui ultimement vaut le coup et demeurera. Votre promotion, elle s'évaporera comme ça. Mais s'aimer ardemment, ça vaut le coup. parce que ça durera éternellement. Pourquoi nous donner la peine de nous aimer les uns les autres? Car c'est la finalité pour laquelle nous avons été rachetés et sauvés par le Christ. Car nous sommes, mais encore, car nous sommes une famille engendrée par la parole éternelle de Dieu. Mais alors à quoi devrait ressembler cet amour? Finalement, bien beau Florian ton discours, mais... Et Pierre ne nous le dit pas vraiment. Il évoque plutôt ce qui conduit à l'entraver, ce qui conduit à mettre à mal cet amour. Regardez verset 1. « Débarrassez-vous donc de toutes les formes de méchanceté, de ruse, d'hypocrisie, de jalousie et de médisance. » Avez-vous déjà essayé l'aviron? On en voit hein, quelques-uns en faire. Une fois, j'ai parcouru les bords de Marne et il y avait un cours particulier. Et le jeune homme avait l'air vraiment en difficulté pour monter sur le bateau. Je pense que j'aurais pas fait mieux, hein, mais il avait l'air vraiment en difficulté. Puis une fois sur le bateau, quelle galère incroyable pour tenir l'équilibre. Il ne faisait que tanguer. Et quelquefois, chavirait jusqu'au moment où il s'est mis en colère contre le bateau. Et c'est là que le moniteur dit une chose qui m'a fait marrer, en fait. C'est là que le moniteur s'écria « Tu te fous de moi ? Tu te fous de moi ? Arrête de blâmer le bateau ! Le bateau était parfaitement équilibré avant que tu ne montes. Préoccupe-toi de toi-même. Trouve l'équilibre. C'est toi qui rends le bateau instable, pas lui qui te rend instable. Trouve l'équilibre. » Quand on parle d'amour fraternel, je confesse, il est courant d'agir comme ce jeune homme. Blâmer les circonstances, ou pire encore, blâmer les autres. Mais Pierre se fait l'écho du moniteur. Ici, regardez à vous-même. Débarrassez-vous donc de toutes les formes de méchanceté, de ruse, d'hypocrisie, de jalousie, de médisance. Et si cette liste, elle semble un peu négative de prime abord, ne serait-ce que dans sa formulation, je crois qu'elle est fondamentalement positive. Car elle nous permet d'être proactifs, en fait. Elle nous permet d'ores et déjà de faire un travail sur nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin d'attendre qu'un des sentiments ou des émotions particulières nous traverse pour agir et pour aimer. Pierre nous dit, nous devons d'ores et déjà nous abstenir du mensonge sous toutes ses formes. C'est très concret. Nous devons d'ores et déjà nous abstenir de parler négativement dans le dos de quelqu'un. C'est très concret. Lorsque nous voyons la malice faire surface en nous, vous savez, lorsque frustrés, nous aimerions bien lancer une pique à l'autre. Vous voyez ça? Je pense que tous les époux voient un peu, peut-être. Lorsque nous voyons la malice faire surface en nous, nous devons y couper court, c'est très concret. Mais notons ici que l'amour fraternel, tel qu'évoqué par Pierre, ne se réduit pas à un sentiment ou à une émotion qui nous traverse, qui nous chatouille un peu l'intérieur. Pierre parle d'un amour connu, manifeste, concret, qui se débarrasse de certaines choses. Qui se débarrasse de tout ce qui détruit la relation. La destruction des relations, c'est d'ailleurs le point commun entre la méchanceté, la ruse, l'hypocrisie, la jalousie ou la médisance. C'est précisément ce qui détruit des relations. Et l'amour fraternel, quant à lui, il renforce les relations, il ne les détruit pas. L'amour fraternel, lui, se réjouit de l'existence de l'autre, ce que la jalousie ne permet pas. L'amour fraternel, il désire sa présence lorsqu'il est absent. Il se réjouit en pensant à lui. Il trouve sa satisfaction dans les réjouissances et les réussites de l'autre. Qu'en est-il de notre amour fraternel? L'amour fraternel exprime de la gratitude pour l'autre. Il remercie Dieu pour son existence. Il accepte avec joie tout ce que l'autre donne ou produit sans sentiment de jalousie. Qu'en est-il de notre amour fraternel? L'amour fraternel respecte l'autre. Il ne cherche pas à l'absorber. Tentation conjugale récurrente, que l'autre devienne ce que l'on veut qu'il soit. Mais il se réjouit de ses différences. Il se réjouit de ses différences. Il ne cherche pas à refaçonner l'autre en une réplique du moi ou en faire un moyen de promotion? Qu'en est-il de notre amour fraternel? L'amour fraternel est aussi loyal envers l'autre, loyal. Il n'abandonne pas l'autre. Il cherche son bien avant le sien, quitte à se mettre à genoux. Quitte à se mettre à genoux, il élève l'autre pour le rendre grand. N'est-ce pas ce que le Christ a fait? Se mettre à genoux devant son peuple. Qu'en est-il de notre amour fraternel? Alors si comme moi vous pensez que c'est plus facile à dire qu'à faire, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué car nous ne sommes pas laissés sans ressources. Car regardez encore verset 2, ce que réclame la grâce de Dieu et qui est à la fois une ressource pour nous. Ce que réclame la grâce de Dieu et qui est une ressource pour nous, c'est que comme des enfants nouveau-nés, nous désirions ardemment le lait pur de la parole afin qu'il vous fasse grandir. Voilà de quoi nous encourager devant la tâche difficile de nous aimer les uns les autres. Car si je lis bien ce qu'écrit Pierre, ce n'est pas nous qui sommes la cause fondamentale de notre croissance, mais la parole de Dieu elle-même qui œuvre en nous. Cette parole vivifiante et éternelle qui nous a engendrés à une vie nouvelle, à être une famille, c'est encore elle qui nous maintient en vie, elle qui nous fait croître pour nous aimer ardemment les uns les autres. Pour quiconque veut bien l'entendre, c'est un véritable encouragement. Dieu ne nous laisse pas sans ressources. Il donne par sa parole vivifiante les ressources pour faire ce qu'il ordonne. Il donne par sa parole vivifiante les ressources pour faire ce qu'il ordonne. D'ailleurs, notons bien qu'il ne dit pas « croissez », il ne dit pas « grandissez », il ne dit pas « devenez plus mature ». Il ne dit pas ça, étonnamment, mais il dit. Certes, il envisage cette finalité, il ne l'exclut pas, mais il dit, l'exhortation est ailleurs. Notre responsabilité, elle est ailleurs. Il dit, désirez ardemment le lait pur de la parole, qui, elle, va produire son œuvre dans vos vies. C'est ce qui est sous-entendu. Il est là, l'impératif, désirez ardemment. Qui fait d'ailleurs écho, et la traduction ici ne le fait pas ressortir, ce n'est pas désirez ardemment, je crois, ici. C'est autre chose. Mais littéralement, en grec, il y a les mots, ardemment. Désirez ardemment qui fait écho à aimez-vous ardemment. Comme si Pierre nous faisait un petit clin d'œil. Pour vous aimer ardemment les uns les autres, hop, 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 désirez ardemment le lait pur. Alors un œil avisé me dira, Florian, je suis désolé, mais dans le grec, l'expression parole de Dieu n'apparaît pas. Et c'est vrai. En effet, littéralement, nous avons désiré le lait spirituel pur. Voici quelques raisons qui me poussent à accepter la traduction « désirer le lait pur de la parole ». Le terme rendu par « spirituel » est « logikos », ça ne vous dit sans doute pas grand-chose, mais il a donc pour racine le terme « logos ». Logikos, logos, qui signifie « parole ». Premier élément. Et dans le contexte, nous venons tout juste de parler de la parole, cette semence éternelle qui engendre. De plus, ailleurs dans la Bible, la parole est présentée comme, ici, nourrissante et pure. Je pense donc que l'exhortation ici est bel et bien désirer ardemment le lait pur de la parole. C'est ce à quoi Pierre veut faire allusion. Plus précisément, désirer la parole de Dieu qui vous est transmise, communiquée. Alors cela ne veut pas dire que lorsque nous écoutons une prédication ou participons au groupe de maison, nous sommes instantanément conduits à nous aimer ardemment les uns les autres. Ça serait trop beau pour être vrai. Ça serait pas mal, mais où serait notre responsabilité dans nos chaussettes? Nous savons bien que la réalité est beaucoup plus complexe que cela, et l'idée, c'est plutôt celle du goutte à goutte qui est envisagée ici, ou celle de la perfusion. Si vous êtes en milieu médical, vous préférez peut-être celle-ci. Si vous êtes jardinier, vous préférez le goutte à goutte. Un jeune pasteur écrivait ceci, et je me rejoins dans ce qu'il écrivait parce que je suis moi-même jeune pasteur. Un jeune pasteur écrivait à sa congrégation, et je pense que Philippe pourrait faire cette parole. « J'ai le vif désir de servir l'Église, afin que vous connaissiez et aimiez le Seigneur de plus en plus. Il est la perle de grande valeur. Je crois fermement que lorsque nous prêchons semaine après semaine pour montrer à quel point il est merveilleux, alors nos cœurs seront renouvelés et revitalisés pour aimer, nous aimer. Je suis certain que Philippe pourrait faire sien, cette formule. L'idée du goutte à goutte et de la perfusion. Et dans une société comme la nôtre, où l'immédiateté est une valeur absolue, je vais sur Amazon, j'achète, je veux le plus facilement possible, je veux manger un petit truc, j'appelle Uber Eats, ça vient tout de suite. Dans une société de l'immédiateté, ce que nous sommes en train de dire n'a pas bonne presse, hein ? N'a pas bonne presse du tout. Et pourtant, c'est ainsi que notre Seigneur veut qu'il en soit. Le goutte à goutte, la perfusion, jour après jour, semaine après semaine. Qu'est-ce qui nous donne l'énergie pour nous aimer ardemment les uns les autres et croître dans la foi ? Je vous apprends rien. Nous le savons bien, la parole vivifiante et éternelle de Dieu. Lorsque j'étais plus jeune, je me souviens combien mon petit cousin, sans doute combien des enfants, désiraient ardemment le lait maternel. L'image qui me revient en tête est celle de son visage décomposé, mais clairement décomposé, lorsqu'il vit ma tante oser, après avoir mis le lait au micro-ondes, oser mettre le dîner au four, plutôt que de récupérer tout de suite le lait qui était prêt. J'ose imaginer ce qui lui a traversé l'esprit à ce moment. Quoi ? C'est sérieux, la maman ? Arrête de perdre ton temps avec le poulet ! Le lait, donne-moi le lait, j'ai la dalle, le lait. Ça se lisait sur son visage. Je me demande si nous ne devrions pas arrêter parfois de perdre notre temps avec tout un tas de choses, tout un tas de divertissements qui n'a que peu de valeur, que peu d'importance. Il ne nous aidera pas beaucoup à nous aimer ardemment les uns les autres. Je me demande si nous ne devrions pas arrêter parfois de perdre notre temps avec toutes les sources de divertissement possibles pour désirer ardemment le lait pur de sa parole. Je constate que dans ma propre vie, l'absence ou la diminution de ce désir est souvent liée à un sursaut d'orgueil. Je n'ai plus besoin. Ou alors, un désir de reléguer cette réalité au second plan, voire au troisième plan. Qu'en est-il pour vous de ce désir ? Est-ce que nos cœurs brûlent de désir lorsque nous nous apprêtons pour venir le dimanche ? Pourquoi est-ce qu'il brûle de désir ? Est-ce bien pour cette parole qui nous est nécessaire et vitale ? Ce désir ardent pour la parole de Dieu nous traverse-t-il lorsque nous nous demandons si ça vaut encore le coup d'ouvrir notre Bible jour après jour ? Si ça vaut encore le coup de venir au groupe de maison lorsque nous sommes fatigués ? Qu'en est-il de ce désir ? Et ce qui est très intéressant, c'est que si ce n'est pas le cas, Pierre nous propose quelque chose. Pierre nous dit, peut-être que nous devrions encore apprécier tout à nouveau la bonté de Dieu, celle qui nous a été manifestée en Jésus-Christ, car c'est le fondement qui doit alimenter notre désir. Regardez verset 3. « Désirez ardemment, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon. » C'est ça vous aussi, là ? Vous avez quoi, vous ? Si ? Ah ouais, c'est une conditionnelle. Oui, c'est sans doute en grec la particule « ei » qui peut être traduite soit au conditionnel, soit comme un fondement. « Puisque ». Moi, je préfère la traduction « puisque ». Parce qu'il s'adresse à des chrétiens, de toute évidence. Il s'adresse à des chrétiens. Il les a présentés comme le peuple de Dieu, comme des élus. C'est plus fondamentalement, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon, plutôt que si, du moins, vous avez goûté que le Seigneur est bon. La bonté de Dieu manifestée dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, lorsqu'elle est justement contemplée, justement appréciée, elle doit nourrir, alimenter notre désir de sorte que nous voulons goûter encore et encore, encore et encore, combien notre Dieu est bon, non seulement par les événements de la croix, mais encore par sa parole vivifiante et éternelle, qui nous a enfantés, qui nous a fait naître, qui nous nourrit et qui nous fera croître jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce que réclame la grâce de Dieu ? Que nous nous aimions ardemment les uns les autres. Car c'est la finalité pour laquelle nous avons été rachetés. Car c'est ce que nous serons. Toujours, pour toujours, une famille qui s'aimera ardemment. Et qu'est-ce qu'elle réclame encore pour nous aider à nous aimer ardemment les uns les autres ? Que nous nourrissions le désir de nous abreuver encore et encore au lait pur de la parole qui saura nous faire grandir. Que le Seigneur nous vienne en aide. Je vous invite à prier. Je confesse, Seigneur, qu'il m'est bien souvent difficile d'aimer ardemment. Cela n'est pas évident. J'aime bien aimer un peu, mais pas lorsque cela coûte trop. Sur mon temps de divertissement, mon temps professionnel, mon temps familial. Je te demande pardon, Père, pour toutes les fois où je n'ai pas su aimer ardemment mes frères et sœurs comme je l'aurais dû. Et pour nous tous qui sommes fiers de ce que tu as accompli en Jésus-Christ à la croix, nous tous qui sommes nourris par l'Évangile, nous tous qui voulons nous laisser alimenter par ta parole, nous te demandons, Père, de nous aider à apprendre encore et encore à nous aimer ardemment les uns les autres. À voir cet amour fraternel comme la finalité de notre salut, quelque chose qui vaut vraiment le coup à côté de tout ce que nous propose notre société, car c'est ce qui demeurera éternellement, l'amour fraternel. Seigneur, aide-nous, viens au secours de notre organisation, au secours de notre vie. Aide-nous à nous aimer à la hauteur de ce que toi tu nous as aimés. Pour ta plus grande gloire, notre plus grand rayonnement sur Saint-Maur et notre plus noble joie, te le demandons au nom de Jésus. Amen.